t'invite ce matin à chanter notre Seigneur et Sauveur à lui, adresser toute la louange qui lui est due parce que, en ces temps de Noël, nous avons la joie de se rappeler qu'un libérateur est né pour nous. Alors chantons joie dans le monde, vous êtes d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Dans vos vies maintenant. C'est le temps où nous pouvons dire merci.
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix,
pense à cette main
puissante qui t'a béni tant de fois. terre dans le voyage. Plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage, qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
Et je crois que les doigts de notre main ne suffisent pas pour compter tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il fait tous les jours. Alors ce matin, je vous invite vraiment à chanter pour le Seigneur, à dire, à exprimer notre reconnaissance envers lui pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il nous donne, et ça, car sa bonté dure éternellement. Demain, il va encore donner. Demain, aujourd'hui, maintenant, il donne encore. Seigneur, je veux vraiment chanter ta bonté. Elle est grande.
Seigneur, je t'aime. Qui m'aide au
nous donne. Tu es là, tu es fidèle, tu es fidèle, tu ne nous abandonnes pas. Chaque jour, ta bonté se renouvelle, ta grâce se renouvelle de jour en jour. Et nous voulons vraiment nous plonger dans ton amour, dans cette grâce-là. Nous voulons saisir cette vérité, combien tu es bon, et vraiment la garder en mémoire, Seigneur. Chaque jour, nous voulons te rendre gloire pour cela. C'est une vérité. Je vous invite vraiment à proclamer que sa bonté ne faillit jamais. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons vraiment que chanter que ta bonté ne faillit jamais. Alors chantons-le plus fort. Que ta bonté ne faillit jamais. Croyons-le ce matin avec foi. Ta bonté ne faillit jamais. Allez, c'est parti. Ta bonté ne faillit jamais. Vous avez certainement des raisons pour le louer. Alors je vous invite à prier, à déclarer « Merci Seigneur pour telle et telle chose dans votre cœur. » Vous pouvez élever la voix, vous pouvez dire merci à voix haute. J'aimerais qu'ensemble, d'un cœur entier, nous pouvons prier, dire, lancer des remerciements au Seigneur, dire merci pour telle et telle chose, merci pour ma famille, merci pour mon travail, merci parce que tu as envoyé ton libérateur pour moi, merci pour ta mort à la croix et ta résurrection, merci Seigneur Jésus pour mes frères et sœurs, merci pour l'Église, merci pour le don que tu me donnes. Ne soyez pas timides, allez-y, on peut prier.
Seigneur, on veut encore se placer dans ta présence et proclamer ta grandeur, ta majesté, parce que tu mérites la gloire, l'honneur et la magnificence.
Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit,
Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre juste a cappella, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, une adoration, parce qu'on se retrouve devant notre roi des rois, celui qui a tout donné, qui a donné le meilleur de lui, son premier-né, pour que nos péchés soient effacés. On peut le reprendre juste a cappella. De tout mon être. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix et dire oui Seigneur, tu es grand, tu es puissant, oui tu es souverain, tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Merci mon Dieu, merci Père pour la vie, merci pour ces instants bénis. Merci mon Dieu de nous avoir choisis, merci pour ces instants Seigneur. Vraiment à toi soit toute la gloire, tu es grand, tu es puissant Seigneur. Comment ne pas te louer ce matin Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, merci pour cet amour puissant. Merci parce que je crois encore aujourd'hui que tu peux guérir, que tu peux délivrer, que tu peux consoler, que tu peux restaurer. Tu n'as pas dit ton dernier mot, tu n'as pas terminé, Seigneur. Et ce matin, si on est là, Seigneur, c'est encore pour te dire merci, mon Dieu. Amen. Wow, gloire à Dieu. Amen, ouais. Merci Seigneur pour ces instants, merci parce que on va vivre encore des bons moments. Est-ce que cette semaine, il y en a certains entre vous qui se sont retrouvés dans les maisons pour prier, lire la Bible? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Personne. Ah, pardon, là, avec la lumière, je ne vois pas bien. Oui, parce que l'église de l'Épi, ce n'est pas que le dimanche matin, et ça vous le savez. Elle continue toute la semaine. Il y a différents rendez-vous, il y a différents groupes. Et si vous venez pour la première fois, si vous êtes intéressé par ce qui se vit dans la semaine, eh bien, je vous invite vraiment à aller au point accueil et à vous renseigner. Si même vous avez envie de passer cette semaine ou faire un petit coucou, ben, venez. J'allais dire, on va vous partager les bredelleux qu'on nous a donnés, mais non, en fait, là, je vais être un peu égoïste, je vais les garder. Mais venez nous rendre visite. Si vous voulez un rendez-vous pastoral, ben, n'hésitez pas. Il y a une rencontre qui se prépare. Il y a une soirée dînatoire. Pourquoi le couple? Bonne question. Intéressant. J'entends Jackie, pourquoi le couple? Ça fait des années quand même, Jackie. Hein. Mais je pense qu'on peut toujours en apprendre dessus. Le vendredi 31 janvier 2025, ce sera une soirée dînatoire. Les célibataires sont invités. Amen, merci. Les couples sont invités. Amen. C'est un temps qu'on va vivre ensemble. Vraiment, pourquoi se mettre en couple? Sincèrement, c'est une question. Qu'est-ce que cela peut apporter d'être en couple? Et quelle est la vision de Dieu pour le couple? Alors, je sens qu'il va y avoir une multitude d'inscriptions. Pour cela, vous allez chercher ce petit flyer au point accueil, ou sinon, il y a un QR code derrière. Vous flashez et vous vous inscrivez. La participation est de 10 euros par personne. D'accord? Les célibataires, 10 euros. Les couples, 20 euros. Voilà. Eh oui, vous êtes deux. Attention, parce que je crois qu'il y a une date limite d'inscription. Le 16 janvier, merci. J'étais en train de la chercher. Donc, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Soyez nombreux. C'est une première où les couples, les célibataires sont invités, où ensemble, on va pouvoir profiter. Je ne dirai pas quels sont les orateurs, mais ils vont nous bénir, j'en suis sûre. Et maintenant, que nos cœurs soient ouverts, nos oreilles aussi, pour écouter la suite.
Bonjour à tous, très content d'être avec vous. Qui a apprécié le temps de louange ? Combien sont d'accord que ça fait du bien d'adorer notre Dieu parce qu'il en est digne, mais aussi parce qu'on en a besoin. Amen. On continue notre série sur l'Avent. Raymond Pierre a parlé la semaine dernière des attentes de l'Avent. Trois attentes de l'Avent, je vous encourage à écouter en ligne si vous n'étiez pas là. C'était vraiment encourageant de parler un petit peu des attentes. Et ce matin, on va parler du cri de l'Avent. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion sur des marchés alsaciens de rencontrer le traditionnel bot, le crieur public. Je ne sais pas s'il y en a, on l'appelle aussi le Ruffman, l'homme qui crie, l'homme crieur. C'était un métier qui était reconnu en France jusque dans les années 70. J'ai retrouvé des archives sur Internet comme quoi c'était encore un métier reconnu. Et il avait pour rôle de crier les dernières nouvelles sur la place publique. C'est un petit peu le journal humain, entre guillemets, les dernières nouvelles. Puis des fois, il avait un petit rôle politique. Il servait de propagande aussi pour amener certaines idéologies, certains partis politiques. Mais son rôle principal, c'était de crier les dernières nouvelles. Et c'est pas juste en France. Je sais pas s'il y en a qui sont de Gascogne ou autre, mais il y a le fameux Jean de Gascogne qui n'existe pas. Hein. C'est une légende, mais on s'en est servi justement pour amener des idéologies, pour amener certaines nouvelles. Et dans le monde entier, dans plusieurs pays, ce métier était reconnu. Et même au temps de la Bible. Le crieur le plus populaire, certainement, c'est Jean-Baptiste. Une voix qui crie dans le désert. Puis on va voir ensemble un petit peu sa vie, en tout cas son appel et puis le message qu'ils vont envoyer. On va lire ensemble Luc chapitre 3, versets 2 à 4. Jean parcourut toute la région du Jourdain, prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Pour vraiment comprendre c'est quoi la voix, qu'est-ce qu'il est en train de crier, il faut qu'on retourne à Ésaïe, il faut qu'on retourne au prophète qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années en arrière, puis on va voir ensemble c'est quoi cette voix, puis c'est quoi son message surtout. Quel est le message de cette voix qui crie dans le désert ? Ésaïe 40, versets 3 à 5. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Un petit peu flou comme passage, on ne sait pas trop comment mettre en pratique ça aujourd'hui quand on n'a pas vraiment de contexte. Donc juste pour aider, il faut savoir comment le livre d'Ésaïe est écrit. Ça va vraiment nous aider pour savoir c'est quoi la motivation du cœur du prophète qui est en train d'écrire ça. Ésaïe, tous les gens disent qu'il y a deux parties, chapitre 1 à 39 et chapitre 40 à 66, la fin du livre. La première partie, c'est la rétribution du péché d'Israël, c'est le jugement. C'est toutes les conséquences à leur faute. Et la deuxième partie, à partir du chapitre 40, c'est la promesse de la restauration. C'est la consolation. C'est la paix de Dieu. C'est l'amour de Dieu en action malgré nos fautes. Donc Jean-Baptiste incarne le début de ce message-là. Et même les théologiens vont dire qu'Ésaïe, il est considéré comme le cinquième évangile, tellement cette deuxième partie résume le message de la bonne nouvelle de Jésus dans le Nouveau Testament. Et c'est d'ailleurs le livre le plus cité par les auteurs du Nouveau Testament après les psaumes. C'est un livre vraiment crucial dans le cœur des auteurs du Nouveau Testament. Donc ça veut dire que pour vraiment comprendre c'est quoi ce message-là, il faut qu'on écoute ce cri. Il faut qu'on écoute ce cri parce que Jean-Baptiste va résumer toute l'attente, va résumer tout le message de la bonne nouvelle, de la consolation, de la restauration qu'Israël attendait et que le monde entier aspire. Donc on va juste essayer de décortiquer ensemble. Ésaïe 40, verset 3. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Préparez le chemin de l'Éternel. Ta responsabilité et ma responsabilité, c'est de préparer un chemin pour Dieu. Préparer une route droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Raymond Pierre a parlé la semaine dernière que le mot « avant » vient du mot « adventus ». Et en fait, « adventus », dans le contexte, c'était quelque chose qu'on pratiquait pour accueillir les rois de l'extérieur, les rois étrangers qui visitaient une ville étrangère, justement. Et il y a Adam Hamilton, qui est un pasteur méthodiste, qui nous explique un petit peu c'était quoi la tradition puis les rituels qui étaient mis en place. Lorsque l'arrivée d'un souverain dans une ville était annoncée à l'avance, les citoyens décoraient leur ville et le jour dit, un cortège de citoyens conduits par leurs dignitaires se rendait à un certain endroit hors des murs de la ville, comme Jean-Baptiste qui va hors de la ville, au désert, où il rencontrait le souverain. Les membres du cortège et les participants à la procession portaient des fleurs, des olives ou des branches de palmier, des lumières et de l'encens, et des chants et des acclamations suivaient. Il y avait toute une préparation qui était là pour accueillir le roi. Un peu, on a un petit peu ça quand on voit les différents présidents qui visitent certains pays, sauf Macron qui ne s'est pas fait accueillir, je crois qu'il était en Argentine. Personne ne l'a accueilli. Le processus n'a pas été mis en place. Mais on le voit ça. Quand un président étranger visite un autre pays, généralement, il y a un cortège. Il y a quelque chose de mis en place. Et à l'époque, c'était super important. Et plusieurs mois à l'avance, il y avait ce fameux crieur qui annonçait. Il dit « Préparez-vous à l'arrivée du roi. Préparez-vous, préparez le chemin, préparez-vous. » Un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le roi lion, Scar qui dit « Accueillez votre roi, soyez prêts, tout ça. » C'est juste une référence pour ceux qui aiment le roi lion. Mais en fait, quand je pratiquais mon message, je pensais à ça. « Soyez prêts. » En tout cas, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est un petit peu l'idée. Se préparer pour accueillir un roi étranger. Et même David McKenna, qui a écrit un commentaire sur Luc, va dire que le pays qui accueillait devait mettre en place des sapeurs pour déblayer les routes encombrées, afin, comme le dit le texte d'Isaïe, de faire une route bien droite, et de ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. C'est-à-dire qu'ils allaient, tout le chemin qui séparait les deux pays, ils regardaient est-ce que le chemin est bien droit, est-ce que le chemin est plat, sinon ah ben, on va déblayer. C'est-à-dire que ton travail, mon travail, c'est de faire ça. C'est de préparer un chemin pour Dieu, c'est de rendre ce sentier, c'est de rendre son arrivée facile dans ma vie. Rendre son arrivée facile, sans encombre, dans ma vie. Mais le problème, je pense que vous serez plusieurs qui seront d'accord avec moi, le problème, c'est qu'en fonction de l'image de Dieu qu'on a, on va lire ce passage de différentes manières. Je vais vous lire ce passage dans ma conception il y a quelques années. Okay ? Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Une voix qui fait peur. Je veux pas continuer, mais vous avez compris l'idée. Quand je disais ça il y a quelques années, ça faisait peur. Je me dis, mince. Il est en train de dire que Dieu arrive et c'est sûr qu'il va me défoncer. Je suis pas prêt pour lui. Ma vie ne reflète pas sa gloire. Ma vie ne reflète pas. Et quand je disais ça, je dis, mince, c'est le jugement qui arrive, c'est le... Et en fait, quand on regarde le contexte, j'ai appris plusieurs années plus tard qu'il fallait regarder ce qu'il y a avant et après, on se rend compte que ce n'est pas du tout la motivation du cœur du prophète qui est en train d'annoncer la venue du roi. Regardez juste verset, ça c'est les versets 3 à 5. Lisons ensemble les versets 1 et 2. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péché. Cette voix qui crie dans le désert, ce n'est pas une voix de jugement. Ce n'est pas une voix qui doit te faire peur. C'est une voix qui doit te consoler. C'est une voix qui annonce la restauration. C'est une voix qui dit que tu as fait des erreurs, tu as des péchés dans ta vie, mais cette voix-là t'annonce que c'est bon, c'est expié. Que le roi arrive et que tu n'as plus besoin d'accomplir parfaitement la loi pour être sauvé. Il y a quelque chose de l'ordre de la restauration divine qui est en train d'arriver. Et tout ce que tu as à faire, c'est préparer la venue, préparer la route qui te sépare de Dieu. Moi, j'avais peur du jugement, j'avais peur de la colère de Dieu, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est une voix qui console. Et l'avant, préparer justement jusqu'à Noël, c'est ça, c'est retourner au vrai sens de Noël. Qu'il y a une restauration possible en Dieu. Peut-être que tu es là pour la première fois, peut-être que tu n'as jamais entendu ce message-là, peut-être que tu dis, mais Dieu est là. Mais en fait, tout ce que tu as à faire, c'est préparer une route bien droite. Et après, tu peux avoir accès à la consolation, à la restauration, à la guérison, au pardon de Dieu auquel chaque être humain aspire au fond de lui. C'est ça le message de l'Avent, c'est ça le message de Noël, c'est que le roi arrive dans une étable pour sauver des pécheurs comme toi et comme moi. Mais alors comment faire? Comment faire une route bien droite en 2024 pour Jésus? Jean-Baptiste va y répondre dans Luc chapitre 3. On retourne au verset qu'on a lu au tout début. Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc premièrement, faire une route bien droite, c'est se repentir. C'est une question de cœur, c'est pas une question de déblayer vraiment une route physique, c'est une question de déblayer tout ce qu'il y a sur notre cœur afin que Jésus puisse y entrer facilement. C'est se repentir. Et normalement, à savoir ça, on devrait tous se réjouir. On devrait tous être contents. Même si ce mot peut faire peur, se repentir, c'est briser notre orgueil, c'est s'humilier, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Mais en fait, quand on regarde à qui Jean-Baptiste s'adresse, c'est une nouvelle extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Parce que voici tout ce que les gens de l'époque qui écoutent Jean-Baptiste, qui sont principalement juifs, voici tout ce qu'ils devaient faire, voici leur to-do list pour rester dans l'alliance de Dieu. Premièrement, ils devaient respecter les lois morales. Il y avait les 10 commandements, mais encore d'autres. Il y avait les lois cérémonielles, il y avait les sacrifices et les purifications. Il y avait les lois civiles, des lois concernant la justice sociale, les propriétés, réparations, mariage, sexualité, sanctions. Il y avait les lois alimentaires, animaux purs, impurs. Il y avait les fêtes et observances. Il fallait respecter le sabbat, la Pâque, la fête des semaines, la fête des tabernacles, le Yom Kippour et tous les commandements spirituels d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même en mettant en place des choses concrètes. Voici la to-do list. Voici comment il devait préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste arrive et dit, le roi arrive, le créateur de toutes choses arrive, et tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir. C'est plus facile que ce qui était prévu. C'est plus facile que ce que les gens mettent en pratique. Tu as juste à te repentir. Tu as juste à reconnaître que toute cette liste-là, tu n'arrives pas à la mettre en place. La repentance, faire littéralement, c'est faire un demi-tour, c'est faire un changement de pensée, puis reconnaître, ok, peut-être qu'en fait, je ne peux pas aller m'en sortir par moi-même, puis je vais courir vers Dieu parce que lui peut me sauver. La repentance. On devrait tous se réjouir par rapport à ça. Il y a 2 éléments qui sont super encourageants, peut-être pour plusieurs aussi ce matin, dans ce qu'il dit. Premièrement, il appelle chaque personne, juif et non-juif, dans le contexte de l'époque, c'est super important, il appelle chaque personne à passer par les eaux du baptême de repentance. En fait, le baptême n'amène pas à la repentance. C'est tu te repens, et pour montrer que tu t'es repenti, tu passes par le baptême. C'est un symbole, comme on le fait encore aujourd'hui. Et c'est assez scandaleux, le fait qu'il appelle chaque personne à passer par ça. Pourquoi ? Parce que le baptême, immersion complète à l'époque, c'était réservé aux non-juifs qui voulaient se consacrer au Dieu des Juifs. Et là, il est en train de dire au peuple d'Israël, non, vous ici, vous avez besoin de repentance. Il faut tous passer. Et là, peut-être c'est une bonne nouvelle pour toi, parce qu'en fait, on est tous au même niveau devant Dieu. On est tous au même niveau devant Dieu, peu importe ton éthique, peu importe tes erreurs, peu importe toutes tes bonnes actions ou mauvaises dans la balance. Tu sais, on a tous une balance. Hein. Notre justice personnelle, c'est sans Dieu, c'est une balance. Bonnes actions. Puis on essaie de rattraper le tir. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, peu importe si tu es la meilleure personne au monde ou si tu es la pire personne au monde, tu es au même niveau devant Dieu. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin juste de reconnaître que Dieu est le seul qui peut te sauver, que Dieu est le seul parfait et que tu as besoin de lui pour avoir accès à la restauration, à la consolation auquel on aspire tous. Donc premièrement, on est tous au même niveau devant Dieu, peu importe ton statut. Et deuxièmement, Jean parcourait toute la région du Jourdain. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour les gens de l'époque, c'était fou ça. Parce qu'en fait, c'est la même expression qui est utilisée quand Lot, le neveu d'Abraham, va choisir son territoire, il va choisir Sodome et Gomorre. Et en fait, Jean prêche à l'endroit où il y avait Sodome et Gomorre. Il prêche le baptême de repentance et il est en train de dire, et puis juste pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, Sodome et Gomorre, c'est la référence de la dépravation humaine dans la Bible. C'est la méchanceté humaine, c'est les orgies, c'est tout ce que l'Éternel, tout ce que Dieu déteste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il va juger une nation, il va dire « Vous serez jugés de la même manière que Sodome et Gomorre ». À chaque fois qu'il veut montrer que là, je suis en colère, il va se passer la même chose que Sodome et Gomorre, c'est qu'ok, il se passait des choses vraiment inhumaines. Et là, Jean, il arrive, il prêche au pire endroit dans la Bible, et puis là, il dit « même pour eux, même pour la pire personne, la consolation est possible ». Il prêche à des pharisiens qui connaissent toute la Bible par cœur et il prêche à celui qui ne connaît rien, qui a une vie qui n'honore pas du tout Dieu, puis il dit, mais en fait, même niveau, même statut, peu importe ton passé, peu importe la souffrance que tu as pu faire subir à d'autres, peu importe la souffrance que toi-même tu as vécue, en fait, il y a la repentance qui est possible, il y a une consolation, il y a un pardon qui est possible. Et ça, c'est le cri de l'avant. Ça, c'est un cri d'espérance. Même si Jean-Baptiste, puis on va continuer, il est quand même assez cash et il peut faire peur aussi.
Luc 3, verset 7, regardez ce qu'il va dire. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Un peu violent quand même. Aujourd'hui, les gens qui disent ça, on les enferme dans des hôpitaux psychiatriques et puis on les dit, ben, c'est juste des complotistes, des fous. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 18, c'est marqué ça. C'est ainsi, donc après qu'il ait prêché, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Encourage ton voisin, dis-lui, race de vipère. C'est un encouragement. C'est marqué, c'est pas moi. Race de vipère, qu'est-ce que ça veut dire? Jean faisait partie des essénites, c'était comme un parti qui se mettait à part. Et il a passé la plupart du temps de sa vie au désert. Donc il s'habillait avec des peaux d'animaux, il mangeait des sauterelles. C'était vraiment un gars qui voulait se séparer du monde, il faisait partie de une sorte de secte comme ça. Et au désert, les vipères, quand il y avait des feux, elles fuyaient à l'opposé, okay, pour se protéger. Et là, il leur dit, arrêtez de fuir comme les vipères au désert. Arrêtez. Et puis le prophète Malachi, le dernier livre de l'Ancien Testament, annonce que Jésus va être comme un feu dévorant. Va être comme un feu qui va venir, et en fait, il va avoir deux actions. Tout dépend de notre réponse de cœur, on va y voir après. Mais là, en fait, il les encourage, il leur dit, arrêtez de fuir. Arrêtez d'avoir peur de Dieu. Arrêtez de fuir Dieu. Tu ne peux pas fuir la colère à venir. Il faut que tu l'affrontes. Il faut que tu l'affrontes. Et si tu l'affrontes avec repentance, alors ça va bien se passer. C'est ça qu'il est en train de dire. Et Don Carson, un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament, dit que le terme vipère fait directement référence à Ésaïe chapitre 59. On va juste lire quelques versets. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Là, ils montrent juste l'état des lieux de son peuple. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on on en écrase un, pardon, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit et ils ne peuvent se couvrir de fruits de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang. Innocents, leurs pensées sont orientées vers l'injustice. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ça, c'est toi et moi sans Dieu. C'est toi et moi sans Dieu. On cherche le bonheur, en fait, en écrasant les autres. Cherche le bonheur et en fait on fait souffrir les autres et on se fait souffrir nous-mêmes et on ne trouve pas la paix comme le texte le dit. On ne trouve pas la paix. Et l'erreur encore, même exercice qu'Isaïe 40, l'erreur ce serait de dire ok mais là en fait j'ai pas envie de préparer le chemin du Seigneur parce que s'il arrive avec ce cœur-là, il va me défoncer, il va me détruire. On regarde le contexte. Versets 1 et 2 encore une fois. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ce n'est pas juste un jugement. Alors oui, il y a une notion de jugement, mais en fait, il y a une notion d'espérance là-dedans. Il dit juste, hey, arrêtez de fuir, puis arrêtez de croire que c'est Dieu qui vous rejette. C'est vous qui le rejetez. À cause de votre péché, à cause du fait que vous ne voulez pas vous repentir, c'est vous qui êtes en train de rejeter Dieu. On rejette Dieu par notre péché et son bras n'est pas trop court pour sauver. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Imaginez-vous la description qu'il vient de donner de l'être humain sans Dieu. Et là, il dit, ouais, mais mon bras n'est pas trop court. Même si tu as fait souffrir des gens, même si tu as une vie qui ne me rend pas du tout gloire, mon bras n'est pas trop court pour sauver. En fait, le sauvetage de Dieu débute quand ta repentance débute. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, la seule chose qui me sépare, le seul moyen de faire un chemin bien droit afin que tu puisses m'accueillir dans ton cœur, c'est la repentance. C'est pas comme à l'époque de respecter toutes les lois ou autres. Après, tu les respectes parce que tu as un cœur transformé, mais c'est la repentance. C'est un demi-tour, changement de mentalité, changement de pensée. Puis, il y a une bonne définition, je trouve, de c'est quoi vraiment l'offense, c'est quoi la repentance de mon Dieu, c'est Tabithi. Agnès Bull, qui a écrit un commentaire sur Luc, qui écrit la chose suivante, en fonction de ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher. La véritable offense n'est pas que votre péché soit pointé du doigt. L'offense devant Dieu est que vous ne reconnaissez pas votre péché. En fait, quand Dieu pointe ton péché, ce n'est pas un jugement, c'est une preuve d'amour. Là, c'est bizarre à entendre ça. Ce n'est pas un jugement, c'est une preuve d'amour. Et faites l'exercice. Les seules personnes dans la Bible où Dieu arrête de pointer le péché, vous savez c'est qui ? C'est ceux qui sont endurcis. Et la Bible dit que Dieu les laissa aller à la dureté de leur cœur. Il arrête de les reprendre, il arrête de les confronter, il arrête. Le pharaon, ça a été ça. Il s'est endurci, puis Dieu a juste, ok, ben, je te laisse aller dans ton endurcissement et ça ira à ta perte. Et puis toutes les personnes, même dans l'Épître aux Romains, il va dire, ben, je les ai laissés aller à la dépravation de leur cœur, au sens réprouvé de leur cœur. Donc quand Dieu arrête de te reprendre, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Quelques jours, avec notre fille Blanche, depuis quelques semaines, on va à l'école en vélo. Et puis elle a appris à faire du vélo rapidement, du coup on s'est dit ok, on va essayer d'y aller avec elle, puis elle prend son vélo, elle a voulu vraiment faire la courageuse, tout ça. Et des fois ça marche, et des fois ça fait un peu peur, parce que le matin il y a du trafic à Strasbourg, et du coup elle roule sur le trottoir, nous on roule sur la route, on est juste à 500 mètres de l'école, et des fois elle fait vraiment ça bien, des fois même elle klaxonne pour dire aux gens, poussez-vous, je suis en train de passer, tout ça, elle est vraiment mignonne. Et il y a 3-4 jours, on s'est fait une frayeur. Elle a pris une initiative, elle avait des gens devant elle, elle s'est dit là, je ne vais pas klaxonner, je vais aller sur la route. Et puis, moi j'étais là, il y a ma femme qui était là, puis elle était juste derrière, et puis là, elle va sur la route, sauf qu'elle tourne, elle se retrouve au milieu de la route. Et il y a des voitures qui passaient, et puis moi je fais, non, à droite, serre. Et là, un coup de stress, puis elle, du coup, elle a un peu figé, puis elle reste au milieu de la route comme ça, et je fais, mais non, recule. Puis les voitures derrière qui étaient stressées, comme ça, à un moment, j'ai vraiment eu peur. Là. Puis ma femme aussi, du coup, on l'a mis sur le trottoir. On a dit, ok, c'est bon, on prend le vélo, on le range dans la carriole, tu montes dans la carriole, c'est fini, en tout cas. Voilà. Et on s'est vraiment énervé. On a pointé son erreur. Parce qu'on l'aime. Si je l'aimais pas, j'aurais rien dit. Si je l'aimais pas, j'aurais... C'est vrai. Si t'aimes pas quelqu'un, que la personne souffre ou pas, qu'est-ce que ça te fait ? Quand Dieu pointe nos erreurs, notre péché, c'est pas juste une notion de jugement, c'est une notion de hey, « non, fais pas ça. Reviens à moi. Écoute ce que je dis, tout ce que je te demande de faire, c'est pour ta protection, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses vivre dans ma liberté. C'est pas du tout juste un jugement de la part de Dieu. » Alors oui, ça l'offense parce que Dieu est saint. Et la Bible dit que Dieu ne peut même pas regarder le péché en face tellement il est pur, tellement... Mais par contre, il regarde le pécheur, il lui tend la main, il lui dit « hey, t'as fait des erreurs, mais viens. » Oui, je pointe ton péché, mais en fait, c'est pour briser ton orgueil et pour que tu te repentes que je fais ça. Ce n'est pas juste un jugement de la part de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que Jean-Baptiste, il dit, arrête de fuir. Arrête de fuir Dieu, arrête de fuir le feu comme les vipères. Arrête, affronte la colère à venir. Et si tu as un cœur repentant, le feu dévorant va être un feu purificateur. C'est ce que Malachie dit. Malachie compare Jésus au feu dévorant. Mais quand on regarde, on étudie les textes, en fait, c'est un feu dévorant qui te purifie. Donc en fait, tu te repens, tu viens avec un cœur sincère de « je reconnais que j'ai fait des erreurs ». Jésus est un feu et Jésus commence à enlever toutes les impuretés de ta vie. Ce n'est pas un feu, le feu de l'enfer, non. Le feu de l'enfer, en fait, tu l'affrontes quand tu fuis dans le désert, comme les vipères. La Bible est claire là-dessus. C'est soit tu choisis le feu qui te purifie en te repentant, soit tu rejettes Dieu. Et alors, tu le rejettes pour l'éternité. Mais si tu t'approches de Dieu avec repentance, c'est un feu qui te purifie, c'est un feu qui te réchauffe, c'est un feu qui te guérit, c'est un feu qui prend soin de toi, c'est un feu qui te donne sa paix. Est-ce qu'il y en a juste à m'enlever ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu ? Ce Dieu-là qui restaure, ce Dieu qui donne sa paix. Je suis le seul à l'avoir vécu. On est 500 personnes, je pense qu'il y en a plus que ça qui l'ont vécu. Okay. Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner, même en acclamant des mains, que Dieu restaure, que Dieu donne sa paix, que Dieu offre le pardon, même des pires erreurs que tu as faites ? C'est ce Dieu-là auquel Jean-Baptiste nous appelle à travers sa voix qui crie dans le désert. Donc premièrement, faire une route bien droite, c'est se repentir. Et deuxièmement, en conséquence naturelle de la repentance, c'est porter du fruit. Luc 3, versets 8 à 14. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Ça, c'est les juifs qui disaient, je suis juif, donc je suis sauvé. Il dit, non, pas comme ça que ça marche. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. La foule l'interrogeait, mais que devons-nous faire ? Il leur répondit, que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts, c'était des traîtres à l'époque, vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » La repentance, c'est des actions concrètes. Ça se montre par des actions concrètes. Et c'est intéressant de remarquer que dans Luc chapitre 7, au verset 30, ça nous dit un petit constat de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun chef religieux qui sont repentis. Il y a des Romains, il y a des collecteurs d'impôts et il y a des personnes de la foule. Mais il n'y a aucun chef religieux qui s'est repenti. Et Luc 7, verset 30 va dire, la foule, plusieurs ont accepté le message de Jean-Baptiste, mais les chefs religieux ont refusé. Ils ont fui par orgueil. Intéressant comme petit détail. C'est une proposition, c'est une invitation, mais ça brise notre orgueil. Et si on ne veut pas laisser notre orgueil briser, bah alors on va fuir comme les serpents dans le désert. Et l'erreur qu'on pourrait faire avec ça, c'est de croire que c'est la même erreur qu'on fait quand on rentre dans le légalisme. C'est de se dire, ok, donc ça veut dire que pour être sauvé, pour obtenir la repentance, c'est des actions concrètes. Non. La repentance te permet de vivre la restauration de Dieu. Dieu transforme ton cœur et ensuite, normalement, tu portes du fruit. Jésus va l'expliquer dans Jean chapitre 15. Il va l'expliquer d'une manière juste qui est assez incroyable. Il va dire que Jésus, c'est le cep. Puis on est en Alsace, on aime le vin, on aime les guévures, le raisin. Peut-être ça va parler à plusieurs viticulteurs ici. Jésus va dire que Jésus, c'est le cep et nous, on est les serments. Et il va dire que les serments d'eux-mêmes ne peuvent pas porter de fruits. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils puisent leur énergie dans le cep, avec les racines, avec l'eau dans la terre, etc. Et en fait, c'est la sève qui passe par le tronc, qui va dans les branches et qui fait qu'on porte du fruit. Et les termes sont intéressants. Il ne dit pas produire du fruit, il dit porter du fruit. C'est-à-dire que de toi-même, tu ne peux même pas porter de fruit, tu ne peux même pas produire de fruit. Il faut que tu sois attaché au cep. Et là, c'est exactement ce que Jean-Baptiste dit. C'est une fois que tu passes par la repentance, Dieu transforme ton cœur. Dieu transforme tes inclinaisons. Dieu transforme tout ce qui était mauvais en toi, puis il le met à un cœur qui a envie de servir Dieu, qui veut juste prouver que vraiment, ok, je veux me consacrer à Dieu. Et ensuite, naturellement, grâce à Dieu, encore une fois, tu portes du fruit. Naturellement, tu commences à transformer les fruits de la chair, donc l'impatience, la colère, en fruits de l'esprit. La patience, la joie, la douceur, l'amour. Et ça, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle aussi de cette voix qui crie dans le désert. C'est pas juste que la restauration est possible, c'est que tu es restauré et ton cœur est transformé. Ton cœur est transformé. Et tu commences à manifester le caractère de Christ dans ton attitude, même si tes circonstances peuvent être désastreuses, même si tes circonstances peuvent être juste décourageantes. Ça, c'est le miracle, la bonne nouvelle de Jésus. Moi, je suis tellement content que la transformation, c'est aussi grâce à Dieu. Parce que si ça dépendait de moi, je pense que Jean-Baptiste, il me verrait et dit « Non, non, tu ne prouves pas les fruits de ta repentance, là. » Je pense qu'il me dirait ça. Je suis tellement reconnaissant que ça vient de Dieu. Je suis tellement reconnaissant que ça vient de lui parce que de moi-même, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas produire du fruit, puis porter du fruit de moi-même. C'est impossible. Et Jean-Baptiste dit justement aux gens, parce que tu avais des gens qui venaient, qui voulaient se faire baptiser, mais pas avec un cœur repentant. Il dit non, il faut que tu prouves. Il faut que tu prouves que réellement tu es passé par la repentance en montrant du fruit. En montrant du fruit. Puis Jésus va le dire, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc ce n'est pas les fruits qui te sauvent, mais quand tu es sauvé, il y a du fruit qui apparaît. Il y a un changement qui prend place. Et ça c'est fou parce qu'en fait, ça veut dire que la repentance, c'est censé être un style de vie. C'est pas juste au salut. Parce que là, il est en train de dire que la repentance te garde près de Jésus, te garde dans cette humilité de « j'ai besoin de Dieu ». Comme les serments accrochés au cep. Et Jésus va le dire, restez proche de Jésus. Restez proche de Jésus. Je me souviens d'une des... Tu sais, on a tous des prédications qui nous marquent. Et nous, quand j'étais au Canada, il y avait Jim Simbala, qui est pasteur à New York. Un grand ami d'W. Carson à l'époque qui est venu prêcher, puis je me souviens, il avait le bras dans le plâtre comme ça, il était un peu blessé, et il avait ramené un petit buisson, et il prêchait sur Jean 15, et tout son message, c'était « reste à côté de Jésus ». Puis il faisait un câlin au buisson comme ça, il faisait un câlin, il faut en fait tout ce que tu as à faire, c'est rester accroché à Jésus. Reste accroché. Il a juste prêché ça pendant 30 minutes, son seul point c'était « reste proche de Jésus ». Et c'est un des messages qui m'a le plus marqué. Parce que Jean 15, c'est ça, Jean 15, c'est tu restes proche de Jésus et après tu as envie de lui obéir. Tu restes proche de Jésus et tu manifestes la patience alors que tu es dans des situations où c'est compliqué. Tu restes proche de Jésus et tu traverses la maladie et pourtant tu es en paix. Tu restes proche de Jésus et tu manifestes son amour avec les gens qui sont méprisables. Rester proche de Jésus. Et la conséquence, c'est que je porte du fruit que le cep me donne de porter. Et c'est tout ça le cri de l'Avent. Jean-Baptiste qui crie dans le désert, c'est un appel à revenir à Dieu avec un cœur juste de reconnaître demi-tour. Ok, j'allais dans ma propre voie, puis là, je veux juste reconnaître que non, en fait, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de reconnaître que j'ai fait des erreurs et que seul lui peut me pardonner. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu as ce cœur qui est enseignable. Ézéchiel 36 dira que une nouvelle ère arrive où il va transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et un des points, c'est que le cœur de chair, en fait, il est modulable. Que Dieu va mettre sa loi en nous et que Dieu va faire en sorte que nous suivions ses préceptes et ses commandements. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile et Noël. La naissance de Jésus, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un Dieu qui est là pour te restaurer, pour consoler son peuple, pour consoler celui qui est fatigué et qui veut aussi transformer son cœur. Et qu'à partir du moment où tu as un cœur transformé, tu deviens un crieur comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un appel pour nous, mais c'est notre appel à tous aussi, à crier. À crier que la consolation est possible, à crier à ton travail, dans ta maison, dans ta famille, dans ton voisinage, à l'école, que la restauration est possible en Dieu. Et de le montrer par des fruits. De le montrer par des fruits. Saint Augustin disait, prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole, et s'il le faut, utilise les mots. Prêche la parole en action, en amour. Michel acquiesce, ça y est que c'est bon. J'ai appelé les musiciens à bien vouloir revenir et puis à commencer à jouer. C'est un cri que tu peux écouter, ou pas. C'est ta responsabilité. Les chefs religieux ont choisi de ne pas écouter ce que Jésus a dit, mais d'autres ont choisi de l'écouter. Et parmi des cris dans l'histoire de l'humanité à écouter, il y en avait un qui était super important, puis c'est un cri, mais si on l'avait écouté, ça aurait peut-être changé la Seconde Guerre mondiale. Je viens des Ardennes, et pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont commencé à nous envahir par les Ardennes. Et le général Gamelin, qui était un général haut placé, un des gars les plus brillants de son époque, qui était le général de l'armée française, qui avait son armée dans les Ardennes, puis il se préparait à ce que les Allemands arrivent, il se préparait à ce qu'ils se fassent envahir. Et les Allemands, en secret, ont commencé à prendre des chemins, puis vraiment à vouloir envahir rapidement. Puis d'après les infos, ils avaient pris de la drogue, drogue du super-héros, donc ils ne dormaient pas. Enfin bref, il y avait toute une affaire là-dessus. Et à un moment donné, il y a un gros bouchon, on ne sait pas pourquoi, qui s'est créé juste avant la frontière. Il y a des éclaireurs français qui passent en avion et qui voient ça. Ils se disent, mais mince, ils sont là, nous on n'est pas prêts, ils sont là. Et puis du coup l'éclaireur, il fonce voir le général Gamelin, il crie, il dit mais ils arrivent là, faut qu'on soit prêts. Et l'histoire nous raconte que le général Gamelin a dit non, c'est impossible qu'ils soient là, impossible. Résultat, en quelques jours on s'est fait défoncer. Et moi j'ai grandi dans les bois, dans les Ardennes, dans les trous de but, tout ça, et peut-être que si le général Gamelin avait écouté ce cri, peut-être qu'on n'en serait pas là. Alors, voilà, l'histoire a continué, puis finalement, c'est bien passé, il y a eu... Vous me comprenez ? On va pas aller dans un résumé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais le point est le suivant. Ce cri-là, il faut aller l'écouter. Mais ce cri-là, les conséquences de ne pas l'écouter, c'est rien comparé au fait qu'on n'écoute pas le cri de Jean-Baptiste. Parce que là, on parle d'éternité, là, on parle de vie éternelle, on parle de passer l'éternité avec Dieu au paradis ou pas. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Je propose qu'on se lève ensemble pour ceux qui le peuvent. Et face à un tel cri, je pense qu'il y a un choix qui doit être fait. Il y a un choix qui doit être fait de dire, ok, est-ce que je vais fuir comme le serpent dans le désert, ou est-ce que je vais aller vers Dieu, en fait, qui me tend les bras, qui veut m'accueillir et qui me dit que la restauration, la consolation de Dieu est possible. Et ça passe par la repentance. La repentance, c'est très simple, c'est juste reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est juste ça. C'est juste de se dire, ok, j'arrive pas à respecter toute ton éthique de vie, tout. J'arrive pas à t'aimer, j'arrive pas à aimer mon prochain. Puis je reconnais que j'ai fait plein d'erreurs, mais ce matin, je veux juste répondre à ce cri et dire, ben ouais, moi je veux préparer une route bien droite sur mon cœur et t'accueillir, Jésus. Je propose qu'on ferme les yeux ensemble, mais peut-être s'il y en a qui sont impactés par ce message, qui veulent faire ce choix-là, c'est quoi, t'es à la bonne place? Parce que Dieu appelle des hommes et des femmes à revenir à lui. T'as été créé pour être en relation avec Dieu. Et je te propose juste de lever la main si tu veux faire ce choix-là, d'être réconcilié avec Dieu. D'être réconcilié avec Dieu, juste de vivre cette consolation, de revivre un renouveau spirituel avec Dieu. N'hésite pas à lever la main. Puis si tu n'oses pas lever la main, fais ce choix dans ton cœur, s'il te plaît. Fais ce choix dans ton cœur. Jamais tu le regretteras. Jamais tu le regretteras. Ici, il y a des centaines de personnes qui sont tellement contentes d'avoir fait ce choix de suivre Jésus, de lui confier notre cœur, de lui confier notre vie, parce qu'en fait, c'est une vie, c'est la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Il y a des mains qui se lèvent. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui ont levé la main. Je veux te prier pour que ton esprit puisse venir vraiment maintenant habiter en eux et leur dire qu'ils sont enfants de Dieu. Leur dire que oui, maintenant ils ont le salut en eux parce que toi tu leur as offert, parce qu'ils ont fait un chemin bien droit sur leur cœur. Et Seigneur, je te prie aussi pour les autres qui ont déjà fait ce choix. Je te prie de nous garder constamment dans un style de vie de repentance, de « ok, ce matin, je vais encore faire une route bien droite pour Dieu. J'ai peut-être laissé des choses sur mon cœur, laissé des péchés qui ont pris beaucoup de place, laissé des pensées qui… Seigneur, je vais refaire ce chemin-là et revenir à un style de vie de repentance où je reconnais que j'ai besoin de toi constamment. J'ai besoin de toi à chaque jour, à chaque matin, avec mes enfants, au travail, dans ma vie perso, quand je suis tout seul, dans mes pensées, j'ai besoin de toi. Je te prie de nous garder, Seigneur, dans cette attitude de vie, de s'humilier pour qu'on puisse juste dépendre de toi, comme les sarments dépendent du cep pour porter du fruit. Alors viens nous aider, Seigneur, à avoir ce style de vie-là et à briller pour toi et à devenir des crieurs publics de ton amour, de ce message qui peut encore changer des vies aujourd'hui en 2024. Au nom de Jésus, et tout le monde dit amen.
David, les fils de Dieu. laissez nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer parce que le roi des cieux est venu, quoi? Tout à l'heure, il était marqué dans les paroles.
Le roi est venu.
Un, deux, ok. Ils ont voulu me couper la parole. Le roi est venu dans une crèche. Je me dis, mais punaise, quand même, le roi des rois. Merci Seigneur, quoi. Amen. Une bonne nouvelle, merci Jérôme. Merci pour ce message qui est touchant et qui est poignant et qui nous dit qu'on n'est pas condamné mais on est sauvé. Alors si ce message t'a encore touché, si peut-être dans la semaine il y a quelque chose qui s'est passé et que tu voudrais le partager, on a une équipe écoute et prière sur ma gauche et sur votre droite qui se tient à votre disposition. N'hésitez pas. Vous avez aussi la possibilité à la librairie d'acheter des livres sur le thème de Noël, sur ce qui a été prêché et apporté, qui sont vraiment intéressants et qui peuvent vous amener à aller plus loin. Vraiment, on vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis, saluez-vous d'un saint baiser, allez voir des personnes que vous ne connaissez pas, profitez de ces instants et bon dimanche à tous.
Qui t'a béni tant de fois.